Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Bien dans ses baskets, nous sommes ravis d'accueillir Manon d'Auvergne. Manon nous partage sa vision d'être à l'aise dans ses chaussures sans cailloux pour la cité, notamment en tant que femme. Kinésithérapeute et doctorante en sciences du sport, elle explore le cycle menstruel et ses mythes. Dans cet épisode, elle aborde également une multitude d'autres sujets, avec bienveillance et beaucoup d'humour. Notre discussion avec elle a été passionnante et nous espérons que vous apprécierez autant que nous cet échange.
Salut Manon.
Salut Johan, salut Nina.
Salut Manon.
Alors on est très heureux de t'avoir dans ce deuxième épisode de Bien dans ses baskets. Et donc la première question qu'on pose à tous nos invités, c'est finalement, selon toi, qu'est-ce que cela signifie être bien dans ses baskets ?
Alors je vais répondre très premier degré, mais clairement c'est être plutôt à l'aise dans ses chaussures. Je dirais qu'il faut qu'il n'y ait pas de cailloux, qu'elles ne soient pas trop serrées. Et du coup, s'il faut expandre la métaphore un peu à sa vie, essayer de trouver sa juste place et la manière d'être qui nous correspond le mieux. Je pense que tout ne peut pas être optimal pour tout le monde, donc trouver la manière d'être qui correspond le mieux, je dirais.
Ok, très bonne réponse. Et est-ce que tu peux un peu te présenter voilà, ce que tu fais et te présenter de la manière dont tu le souhaites?
Ok. Tu sais que j'aime bien cette question parce qu'on a tendance à beaucoup se présenter par rapport à notre métier. Et en fait, c'est un exercice quand même super dur de le faire sans parler de ce qui nous aide à gagner notre croûte. Donc, je vais essayer de dire ça le plus tardivement possible dans cette présentation. Donc, je m'appelle Manon d'Auvergne. Je viens de Guignon, une ville célèbre pour le football il y a fort, fort longtemps. Et du coup, je dirais que s'il fallait me présenter... je suis avant tout une passionnée de pas mal de choses, de la vie en général, de l'être humain. Je pense être encore assez optimiste sur ce que l'humain est, par rapport à ce que l'humain est, par rapport à ce qu'il peut devenir. Et j'adore lire, j'aime beaucoup l'art en général, en tout cas assez sensible à toutes ces formes-là. Et du coup, effectivement, comme l'argent ne tombe pas du ciel actuellement, je suis chercheuse et kinésithérapeute. Et je vais mettre chercheuse en premier parce qu'effectivement, la majorité de mon temps se passe en thèse doctorale, comme toi, Johan. et du coup, voilà, j'étudie notamment les femmes et je trouve ça super chouette.
Alors du coup, notre première question, c'est pourquoi tu as choisi d'aller vers cette thématique qui est assez atypique quand même.
Ouais. Déjà, la recherche, c'était pas vraiment un but en soi. Donc en fait, j'y suis revenue un peu, c'est fou de dire qu'on fait une thèse par hasard, mais clairement, c'était pas du tout le but initial. Donc quand on voit ce que ça implique, c'est un peu paradoxal de commencer comme ça, mais en fait, c'est des questionnements qui m'ont amenée là. Et l'un de mes questionnements, c'était par rapport à ma sœur, qui un jour m'a posé une question, c'est « j'ai un implant, j'aimerais bien avoir un bébé ». Et en fait, à l'époque, elle préparait son premier Ironman. Et elle me dit, en fait, j'ai plus mes règles depuis un petit moment. Alors, j'aimerais bien savoir, tu penses que si j'enlève mon implant, combien de temps ça va prendre pour revenir ? Et il faut savoir qu'on est une fratrie de... D'ailleurs, on ne dit pas fratrie, on dit sororie. Je ne l'ai su il n'y a pas longtemps, donc je vais le poser là. on est une sororie de trois sœurs. Donc, je suis celle du milieu. Ma petite sœur Camille et Margot, donc la triathlète dont je vous parlais. Et j'aime bien faire plaisir à ma grande sœur, parce que je suis un peu fan d'elle. Et du coup, c'est vrai que j'ai cherché la réponse à sa question. Et en fait, j'étais un peu mal à l'aise parce que j'ai pas trouvé grand-chose par rapport à ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir une contraception masque effectivement le cycle menstruel. Et j'ai découvert que quand on avait plus de cycle menstruel, finalement, c'était pas toujours une bonne chose. Et en fait, j'ai découvert surtout qu'on savait pas grand-chose sur les sportives. Et je me suis dit qu'il fallait continuer de creuser. Et c'est comme ça un petit peu que l'intérêt sur le sujet est né. Et en parallèle, je m'étais formée en kinésithérapie du sport, donc avec Kinésport Expert assez vite à la sortie de mon diplôme, et assez vite en périnée, et en sport et périnée aussi. Et en fait, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas autant d'exigences que je voulais des deux côtés, c'est-à-dire la réunion de ces deux mondes n'était pas forcément évidente. En tout cas, dans aucune de ces deux formations, j'avais trouvé les réponses à mes questions. Et c'est un peu la réunion de ces deux mondes où je me suis dit, bon, il y a vraiment des choses à faire. Et comme je trouve pas les... J'ai continué de me former, j'ai dépensé beaucoup d'argent et j'avais pas forcément les questions à mes réponses. Donc, je me suis dit que j'allais les chercher autrement. Et c'est comme ça un petit peu que tout s'est emboîté, on va dire.
Ok. Et justement, comment tu expliques que finalement, par exemple, si on prend des études en sciences du sport, que les femmes sont vraiment sous-représentées par rapport aux hommes, est-ce que tu expliques ou pas du tout, enfin...
Ça s'explique sur pas mal de raisons, mais déjà parce que l'accès à l'université a été hyper tard pour les femmes. Et les sciences du sport aussi, elles ont connu un accès assez tardif. Donc en fait, les premières femmes en sciences du sport, ça a été déjà dans les années 1950-1960. Et en fait, il faut corréler ça, je dirais même 70, si je ne m'abuse, parce que les femmes, le premier marathon couru par une femme, c'est dans les années 1960. Donc en fait, plutôt que ça, ça aurait été compliqué, vu que déjà, on ne nous autorisait même pas à faire du sport. Autant vous dire qu'on n'allait pas nous étudier en tant que sportive, parce que du coup, on ne pratiquait pas de sport. Donc, le truc, c'est que ça n'a pas vraiment été comblé et que le temps que les femmes aient juste accès au sport, ensuite aux études en sciences du sport et ensuite à des postes qui permettent de faire de la recherche en sciences du sport, bah, y a déjà eu bien 20 ans, 30 ans d'écoulés. Ce qui nous amène un petit peu aux années 1980, et c'est genre avant-hier. Et le début de la recherche, on va dire, dans les sciences du sport avec des femmes comme participantes, c'est dans les années 80-90, avec énormément de recherche qui n'est même plus, on va dire, à jour, ni même... Enfin, maintenant, on la regarde d'un air un peu plus critique, parce qu'on sait beaucoup plus de choses sur les hormones, on sait beaucoup plus de choses sur le niveau sportif, et en fait, elles ne sont pas spécialement bien designées pour que les résultats qui ont été faits à l'époque... puisse être encore considéré à l'heure actuelle. Donc voilà, ça explique, je pense, en partie le retard qu'on a eu. Donc c'est un phénomène, je dirais, sociétal vachement global, quoi.
Ok, mais du coup, c'est fou, parce que quand on voit au final tous les changements qu'il y a, en fait, entre les deux sexes, c'est fou qu'en fait, ça n'a pas été pensé avant. Et surtout, de ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que la plupart du temps, ça va être des chercheuses femmes qui vont en fait penser à intégrer la femme dans les études.
Et bah c'est un peu le cas, effectivement. Disons que une fois que les femmes ont eu accès à la recherche, elles ont mis en lumière des choses et que les hommes n'avaient pas forcément pensé. Je pense aussi qu'il y a énormément de tabous globalement. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous parlais l'exemple de ma sœur et de la contraception. En fait, il n'y a pas si longtemps, la contraception, c'était un droit qu'on avait durement acquis. Donc, le remettre en question, ça implique beaucoup de choses, finalement, aussi, au sein de l'avancée que ça a pu être. Et comme on a pu voir avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est aussi un droit qui n'est pas si ancré que ça, en fait. Et du coup, de cette question-là, de l'étude et de la remise en question, finalement, elle soulève aussi tellement de choses. Donc, rien n'est vraiment anodin, et sans que ça devienne militant et féministe. En fait, c'est une vraie question d'engagement et de vision, où en fait, tu avances à tâtons, parce que déjà que c'est presque une fleur de pouvoir être, je dirais, je parle à l'époque, hein, mais d'être intégré en sciences du sport, en plus, t'as le droit de faire de la recherche. Si en plus, tu commences à remettre en question ou dire « Hey, moi aussi, j'ai mes règles, j'aimerais bien dire quand même que... Hey, on pourrait travailler là-dessus, s'il vous plaît. » Enfin, je pense qu'à l'époque, c'était pas tellement possible, et je sais pas si on aurait pu faire les choses tellement mieux qu'elles sont faites aujourd'hui. Mais par rapport à ça, il y a un collectif du coup irlandais qui est mené par Emma Colley et qui a mené trois études là successives qui s'appellent Invisible Sport Woman. Et en fait, les premiers papiers, donc c'est Invisible Sport Woman 1.0. Il porte sur la représentation des femmes en tant que participantes, en tant que sportives, donc en sciences du sport et de l'exercice, donc la kinésithérapie en fait partie. Et en fait, les proportions, les études qui ne portaient que sur des sujets exclusivement féminins, c'était 9%. Donc c'est pas grand-chose. Et en fait, ensuite, elles ont regardé les études qui regardaient l'inclusion des participantes. Quand c'était mixte, il y avait que 23% de femmes. Donc en fait, il y avait encore, sur des effectifs mixtes, une disparité en fait de représentation. Et en plus de ça, les auteurs avaient tendance à inclure les femmes, à cette époque-là, pendant leur période de règles, parce que, ouvrez les guillemets, c'est là où elles ressemblent plus à un homme. Donc c'était vraiment déjà un screenshot d'une toute petite période Et en plus, on parle de femmes en âge de se reproduire, donc ça ne cible que la période de 18 à 40 ans, donc on parle pas de la ménopause, donc on parle pas de tout ça. Et donc, en fait, ces études, donc cette première étude, elle a déjà mis en avant que les conclusions qui sont tirées en sciences du sport actuellement, elles sont majoritairement tirées sur des sujets des jeunes footballeurs stapsiens, des jeunes... généralement, vous savez, c'est comme en Staps en France, c'est un peu la INSEE de Belay, c'est les jeunes sportifs qui ont des doubles cursus. Du coup, c'est des jeunes hommes dans la fleur de l'âge qui, du coup, sont pris pour modèle, parce que c'est aussi la matière, entre guillemets, la population la plus accessible. Et du coup, après, de ça, on a fait beaucoup, beaucoup de conclusions. Et en fait, ces conclusions, bah, faut quand même... Je suis très fan de l'EBP, mais je pense qu'il faut rester critique par rapport à ces conclusions-là et se dire qu'elles ont été faites sur des hommes en bonne santé. Et que parfois, quand ça ne fonctionne pas sur, je ne sais pas moi, Françoise, 43 ans, qui n'a jamais fait de sport de sa vie, par exemple du heavy slow resistance, une méthode de rééducation pour la gestion des tendinopathies, notamment au niveau du triceps sural, donc du mollet. Ben en fait, peut-être que le protocole, il était très bien pour Arthur, 19 ans, quarterback, et qu'il n'est pas forcément vraiment adaptable à, du coup, Françoise, 43 ans, n'ayant jamais fait de sport de sa vie. Et c'est vraiment ce premier papier, il a fait un... Enfin, nous, on le cite et on le recite beaucoup. Donc moi, dans les conférences, c'est un des papiers que je mets beaucoup en lumière, mais il a fait pas mal de choses. La deuxième, ça a été la représentation des chercheurs et des chercheuses, surtout. Et ils ont regardé... la place des auteurs et le genre des auteurs. Donc il faut savoir que du coup, nous, quand on fait de la recherche, on regarde pas des articles, on parle d'articles, mais c'est pas des articles de journaux, c'est pas comme dans Le Monde, Le Parisien et tout ça, c'est cool à lire, nous les papiers qu'on lit, tu me confirmeras, Johan, c'est quand même pas... Disons que c'est pas de la grande littérature, c'est très intéressant, et je veux pas être dégradante en disant ça, mais c'est un peu dense. Toujours est-il que l'ordre des auteurs, chez nous, ça veut dire quelque chose. Le premier auteur, généralement, c'est lui, qui, ou elle, qui mène la recherche. Et le dernier auteur, c'est le senior. Et c'est lui qui chapeaute la recherche. Généralement, c'est lui qui va chercher les financements, ou elle. Et c'est un peu deux places qui sont très importantes, en fait, dans la littérature scientifique. Et donc, ils ont remarqué que, déjà, il y avait une plus grande proportion d'hommes en tant que dernier auteur, donc en tant que senior. Ce qui est logique quand on y pense par rapport à ce que je vous ai décrit au niveau de l'accès aux femmes à des postes à responsabilité, parce que du coup, ben, d'un moment, il faut presque 10 ans pour arriver à des postes un petit peu de senior, donc ça a son importance. Et sur des sujets exclusivement féminins, en fait, ils ont remarqué que la qualité des papiers était meilleure quand le senior et le premier auteur étaient des femmes. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu avant, effectivement, quand les femmes étudient des sujets qui portent sur les femmes, la qualité méthodologique de l'étude était bien meilleure, en fait. Et une des dernières choses qu'ils ont regardées, c'est en fonction du journal qui recevait l'article, au niveau du comité rédactionnel et du comité de validation des articles, et ben là aussi, en fait, la manière dont ils validaient les articles, c'était intéressant parce que les retours n'étaient pas les mêmes et que plus il y avait de femmes dans le panel de rédaction, plus on va dire les exigences et les erreurs dans les papiers, moins il y avait d'erreurs dans les papiers, entre guillemets. Donc, c'était vraiment, vraiment... c'est une cohorte qui est encore amenée à grandir, parce que là, du coup, elles ont lancé un 3.0. Désolée, c'est une énorme phrase. Et qui, du coup, s'intéresse aux chercheuses encore dans la recherche. Et du coup, c'était des entretiens semi-directifs. Donc, j'ai participé à cette cohorte. Et en fait, ils essayaient de nous demander autour de nous comment était la représentation féminine. Est-ce qu'on avait des rôles modèles, en fait, des femmes qui, justement, étaient en place de seniors ou qui nous chapeautaient? Est-ce qu'on avait l'impression que notre genre était un frein, en fait, à notre carrière? Est-ce qu'on avait des rôles modèles qui avaient pu mener une grossesse, par exemple, au sein du carrière universitaire, etc. Donc, hyper intéressant, parce que même si je travaille sur un sujet exclusivement féminin, bah, ça m'a permis de constater que je n'avais que des hommes, en fait, dans mon comité directeur. Non pas qu'ils sont brillantissimes et j'ai un soutien assez incroyable de leur part, mais c'est vrai que... dans le comité directeur officiel, je n'avais que des hommes. Et du coup, on a fait rentrer une spécialiste scientifique qui s'appelle Nathalie Boisseau, qui est exceptionnelle en France sur le travail qu'elle a accompli sur la femme et la recherche sur la femme. Et du coup, j'étais contente d'avoir un peu plus de parité, entre guillemets, dans les personnes qui me chapeautent. Mais c'est hyper intéressant parce qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on ne se pose pas les questions. Et ces papiers-là, on fait pas mal, on va dire, émerger des prises de conscience. Voilà.
Très bien. Et justement, en parlant des chercheuses, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes travaux de recherche et ce sur quoi tu travailles, s'il te plaît?
Du coup, je travaille sur l'impact des différentes phases du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. L'idée, c'est d'essayer de voir si les différents climats hormonaux du cycle ont un impact sur la capacité du muscle à produire de la vitesse, à produire de la force, à maintenir un niveau de force dans le temps. Et on regarde aussi les qualités contractiles du muscle, avec notamment la raideur, avec l'élastographe, qui, à mon avis, tu connais bien au sein de ton labo, Johan. Donc voilà un petit peu le défi qui nous anime, et on va essayer de voir si s'entraîner d'une manière un peu spécifique par rapport aux phases du cycle menstruel, ça a un intérêt ou non. Parce que ça, c'est encore un petit peu un sujet à la mode, mais pour le moment, qui n'a pas forcément fait ses preuves. Et on va essayer de voir justement si l'effet que ça a, si ça a un effet déjà, et si l'effet que ça a est intéressant pour mettre les efforts là-dessus pour les femmes, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une charge mentale, et que c'est très bien qu'on libère la parole sur le cycle menstruel, mais il ne faut pas non plus qu'on rende les femmes un petit peu obsédées ou qu'on les force à parler de quelque chose dont elles n'ont pas envie. Enfin voilà, en fait, un sujet aux multiples facettes, et je pense qu'il faut toutes les considérer.
Et est-ce que du coup, déjà, pour qu'on parle un peu de la même chose, tu peux préciser rapidement quelles sont les différentes phases du cycle?
Ok. Alors le cycle, du coup, il peut être divisé en deux phases, sachant que la partie entre guillemets visible de l'iceberg et du coup la partie visible du cycle menstruel, ça va être les menstruations. Donc le cycle commence avec les menstruations et se terminera avec la survenue des menstruations du cycle suivant. Donc J1, c'est vraiment le début du cycle, et il va être marqué par l'apparition des règles, et le cycle sera terminé lorsqu'il y aura de nouveau l'apparition des règles, et ça marquera le dernier jour, donc la veille de l'apparition des dernières règles. Ce qui va ensuite sous-tendre et marquer, entre guillemets, le passage d'une phase à l'autre, c'est la survenue d'une ovulation. L'ovulation, c'est quand les ovaires vont faire expulser un ovocyte qui va cheminer au sein des trompes pour venir dans l'utérus et potentiellement être fécondé ou pas. Et du coup, en fait, la première phase va être sous l'influence majoritairement des œstrogènes qui vont augmenter jusqu'à déclencher un pic d'une autre hormone qui s'appelle l'ALH, qui va provoquer un petit signal comme une notification, on va dire « ok, c'est le moment de l'ovulation ». Ensuite, du coup, ben, une fois que l'ovulation a lieu, on va avoir une autre hormone qui va être sécrétée, ça va être la progestérone, qui va du coup prédominer sur les œstrogènes, mais on va voir les deux hormones qui vont être concomitantes sur cette deuxième partie du cycle. Et en fait, du coup, l'idée, ça va être de préparer l'utérus à une potentielle gestation. Donc, elle s'appelle progestérone parce qu'elle est progestative. Et l'idée, ça va être de rendre l'utérus un peu plus accueillant. Donc, on a généralement une augmentation de 0,3, 0,5 degrés au sein de la température interne. On augmente l'endomètre, qui du coup c'est ce qui tapisse l'utérus, comme si c'était un petit peu la tapisserie de la chambre du nouveau-né. Et puis si jamais il y a fécondation, eh bien en fait on va rester un petit peu dans cet état de prédominance de la progestérone, qui est vraiment une hormone qui va être tout le temps là pendant la grossesse. Et s'il n'y a pas de fécondation, eh bien en fait on détapisse la chambre du nouveau-né, on coupe le chauffage, du coup l'endomètre se désquame. Et de nouveau, on est reparti pour un tour, et c'est de nouveau les menstruations avec le J1, etc. Et du coup, on aime bien dire que les œstrogènes, c'est la petite sœur de la testostérone. Alors, les femmes aussi sécrètent de la testostérone tout au long de leur vie et tout au long du cycle. Et du coup, en fait, l'idée, on suppose aussi potentiellement que cette hormone-là aurait un effet anabolique, en tout cas chez les rats et en milieu contrôlé, c'est ce qu'elle a montré. Et nous, l'idée, c'est de voir si potentiellement on pouvait se servir des effets anaboliques des œstrogènes, donc dans la phase avant l'ovulation, pour potentiellement, effectivement... voir ce qu'il en est, quoi. Voilà un peu les choses. Certains chercheurs parlent de fenêtre optimale. Pour le moment, bon, on est encore un petit peu aux prémices de tout ça, et chaque femme a l'air d'avoir un cycle un peu différent, donc voilà. Ça, c'est le cycle licorne théorique. Il se passe énormément de choses. Avec Barbara, on aime beaucoup, donc mon acolyte du podcast, qu'effectivement, je ne me suis pas présentée à ce niveau-là, mais avec Barbara Vulpinari, on a un podcast qui s'appelle Femmes et Sport Podcast. Et effectivement, on le présente sous le nom de cycle licorne. Et les licornes, ça n'existe pas. Donc, c'est un cycle théorique de 28 jours. Mais voilà, ça peut durer 29, ça peut durer 30. Peut-être qu'un cycle, ça dure 27. Ensuite, ça peut durer 32. L'ovulation n'est pas toujours à J14. Ça dépend de nombreux facteurs, notamment l'alimentation, le stress induit par l'exercice. Généralement, c'est un combo des deux qui fait que parfois, il peut y avoir des troubles. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ce qu'on aurait cru dans les années 80, justement. mais on savait pas tout ça, donc voilà, il y a vraiment énormément de choses qu'on commence à comprendre sur ce fameux cycle.
Est-ce que, justement, en fonction du cycle dans lequel tu te situes, est-ce que tu adaptes, en fait, à ton activité physique ou, je sais pas, tes activités de la vie quotidienne? Ou, par exemple, j'ai entendu qu'il y avait des études qui essayaient de montrer que pendant une certaine phase, tu étais plus à risque de faire, par exemple, une rupture des ligaments croisés. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai, c'est faux, entre guillemets? Enfin, voilà.
Je trouve ça super chouette qu'on ait pu aborder un peu l'accès du sport aux femmes un peu juste avant. C'est que je pense qu'en tant que professionnel de santé, parfois, il faut être assez conscient du discours et de la portée de notre message. C'est que involontairement, parfois, on peut avoir un discours nocebo. Quand on parle de la rupture du LCA, du cycle menstruel, pour moi, on est plus sur un discours nocebo qu'un discours qui est largement appuyé par la science. Et en fait, il faut aussi se dire que, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va ovuler tous les mois. Est-ce que bloquer l'ovulation et imposer une contraception pour potentiellement réduire le risque du ligament croisé antérieur, alors qu'en fait, le ligament croisé antérieur, il y a énormément de chercheurs qui travaillent dessus, beaucoup plus que sur le cycle menstruel d'ailleurs. Et je crois quand même pouvoir dire avec assez d'honnêteté que c'est encore un peu flou, hein, quels sont les facteurs qui font que il y a une rupture ou il n'y a pas de rupture, surtout notamment sur les ruptures du ligament croisé antérieur sans contact. On parle d'un retard d'activation des ischio-jambiers, donc les muscles de l'arrière de la cuisse par rapport au quadriceps, donc le muscle de l'avant de la cuisse. Certains auteurs ont d'autres un peu théories. Je pense que c'est toujours un peu culpabilisant de mettre l'accent sur des facteurs sur lesquels on ne peut rien faire. Par exemple, un angle cul, ou un bassin plus évasé. Enfin, avec toute la meilleure volonté du monde, oui, les femmes, on a des différences anatomiques, donc deux que je viens de citer notamment, donc un bassin un peu plus évasé qui font que les fémurs seront emboîtés un petit peu différemment par rapport aux hommes. Et ce qui fait que du coup, l'angle du genou fera un valgus, un espèce de X, qui est plus ou moins prononcé chez les femmes. Il semblerait que ça, par exemple, et aussi la pente tibiale, ce serait associé à un risque de survenue des blessures plus élevé. Mais en fait, ces études-là, même si elles sont intéressantes et elles font émerger des choses, corrélation ne veut pas dire causalité. Ça, c'est des phrases un peu qu'on se rabâche un peu entre chercheurs, mais c'est pas parce qu'il y a un lien que c'est forcément la cause. Et en fait, ces études-là, elles n'ont pas forcément vu, je pense, la force des moyens fessiers. Elles n'ont pas forcément regardé la réactivité, l'accès au sport que ces jeunes filles ont eu, parce que du coup, si tu commences le football sur le tard à 15 ans, c'est pas la même chose qu'un garçon qui a été en école de foot à 7 ans avec des crampons qui sont moulés sur une morphologie de pied masculin et dans un environnement où en fait, il a eu les meilleurs entraîneurs, les meilleurs terrains, les meilleurs ballons depuis qu'il est petit. Est-ce que vraiment tout ça n'aurait-il pas un peu plus d'influence que finalement des facteurs anatomiques qui certes sont importants, mais est-ce que les femmes peuvent vraiment agir dessus? Et vraiment, toutes les cohortes qu'on essayait de mettre en évidence le risque de survenue des blessures par rapport aux phases du cycle, ben en fait, il n'y a pas toujours des prises de sang qui sont associées, donc on ne peut pas dire avec certitude qu'il n'y a pas de trouble du cycle. Donc certains sont l'anovulation, donc l'absence d'ovulation, qui va du coup avoir son impact sur différentes hautes sécrétions d'hormones, notamment la progestérone, notamment les œstrogènes. Il peut y avoir une déficience de phase lutéale. Et ça, en fait, tout ça semble, par exemple, avoir un impact sur la coordination. Et en fait, toutes ces études n'ont pas cherché ça. Elles ont juste demandé aux femmes, quand est-ce que vous avez vos menstruations? Et est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous êtes blessée? C'est quand même fou, tu te fais opérer d'une chirurgie, il y a notamment un article que j'aime vraiment pas, mais qui est quand même beaucoup cité, où en fait, pendant le chirurgien posait la question aux femmes, sinon vous vous souvenez en quelle phase vous étiez quand vous êtes blessée? En fait, il y a plus de femmes qui ne savent pas dans quelle phase elles sont, que de femmes qui savent dans quelle phase elles sont. Et je pense que déjà, avant de sauter sur des conclusions et dire « Oh mon Dieu, vous êtes pendant l'ovulation, vous allez vous blesser. » Et puis, est-ce que c'est aidant, en fait? Est-ce que c'est vraiment un discours qui est aidant pour les femmes? Est-ce que vraiment, on peut pas y faire quelque chose? Est-ce que du coup, on a vu que le FIFA 11+, permettait de quand même réduire l'incidence des blessures? Est-ce que ces femmes-là ont eu accès à quelque chose de similaire au cours de leur vie sportive? Avant qu'on statue sur, certes, des différences anatomiques qui sont présentes, mais avec lequel on doit faire face, en fait. Donc, je suis assez prudente là-dessus. Parce que des articles, quand on tombe un peu sur la littérature là-dessus, tu te dis, ouais, c'est fou. Bah, du coup, on bloque l'ovulation. Bah, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est ça la solution. Je pense qu'il faut avoir une approche très individuelle, être sûr que tout a été maîtrisé. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre déjà ischio? Est-ce que potentiellement tous les autres marqueurs sont au vert avant de se dire c'est sûr c'est ton ovulation? Parce que je pense qu'il y aura quand même pour n'importe quelle blessure, il y a tellement de facteurs confondants que je pense qu'il faut plutôt essayer de comprendre comment le cycle menstruel nous impacte et comment il impacte notre pratique, parce que c'est une flèche qui va vraiment dans les deux sens, avant de commencer à sauter sur des conclusions sur lesquelles malheureusement on n'a quand même pas toujours beaucoup de possibilités d'action.
Et bien justement, est-ce que tu peux un petit peu préciser, mais sur une sphère un peu plus globale, pas que sur le sport, comment le cycle menstruel impacte en fait le bien-être, la vie des femmes?
Ok. En fait, je pense vraiment qu'il faut préciser que chaque cycle menstruel... Déjà, on parle d'un cycle menstruel naturel. Il faut savoir qu'il y a quand même 50% de la population qui prend une contraception, population féminine en âge de procréer, et que dans la contraception, il y a énormément de choses aussi. Il y a du coup des contraceptions qui sont hormonales, des contraceptions qui sont dites mécaniques, et que du coup, quand vous ajoutez des hormones exogènes, donc qui ne viennent pas de votre corps, ça a un autre impact, et c'est un impact différent, qui est encore très mal étudié, si je dois être très franche avec vous, parce que c'est très compliqué d'étudier chaque type de pilule, et qui est un vrai sujet aussi sur les autorisations de mise de marché sur les premières pilules. C'est un vaste sujet aussi, tout n'a pas forcément été extrêmement bien fait, on va dire, dans les premières générations de pilules, donc bon, il y a pas mal, on va dire que ce que je vais dire là, va pas forcément permettre à toutes les femmes de s'identifier, parce que si vous prenez une contraception, il est possible que vous ne vous retrouviez pas là-dedans, à part si vous avez une contraception mécanique, comme par exemple un stérilet au cuivre, où du coup le climat hormonal global de votre corps sera le même. Du coup, pendant les menstruations, il y a pas mal de femmes qui décrivent généralement un état un peu plus de fatigue, une certaine labilité émotionnelle, et en fait, il faut aussi savoir que le vécu des menstruations est extrêmement différent d'une femme à l'autre. Il y a des pathologies du cycle, telles que, enfin, en tout cas du cycle, en tout cas de la femme, je dirais plutôt, qui s'appelle l'endométriose. Par exemple, dans les études en sciences du sport, c'est encore assez rare. Quand on demande un petit peu si le cycle menstruel impacte la performance, c'est encore assez rare de voir dans les facteurs confondants si l'endométriose a bien été prise en compte. Moi, par exemple, dans ma recherche, je suis obligée un petit peu de screener la population. Je n'étudierai pas l'endométriose parce que justement, ça va un petit peu, j'aime pas dire ce mot, mais brouiller un petit peu les autres facteurs. Et les conclusions, si j'intègre des femmes qui ont de l'endométriose, vont être différentes que si j'intègre des femmes qui n'ont pas d'endométriose. Ça mériterait en fait un sujet de thèse à part entière. Je dis pas du tout qu'il faut pas l'étudier. Ça mériterait en fait un sujet de thèse à part entière sur l'étude des femmes qui ont de l'endométriose et comment cette pathologie influence justement la production d'un effort sportif. Ça serait extrêmement intéressant. C'est malheureusement pas mon sujet de thèse et je peux pas tout étudier. Du coup, quand on parle de la première phase, on va dire, des menstruations, la phase folliculaire précoce, en fait, entre celles qui ont des saignements qui sont extrêmement, on va dire, modérés, qui vont avoir un flux entre 2 et 3 jours, où il y a très peu de douleur, versus quelqu'un qui a de l'endométriose, versus quelqu'un qui a ce qu'on appelle des saignements menstruels abondants, qui vont être clairement une gestion technique du flux qui est complètement différente. C'est-à-dire, si tu dois changer de protection toutes les 2 heures, c'est pas du tout la même chose que si tu dois pas t'en préoccuper et qu'une seule protection, par exemple une culotte menstruelle à faible flux, te tient toute la journée et te permet de pratiquer ton sport. C'est pas du tout la même chose que si toutes les 2 heures, tu dois trouver une solution. Et du coup, en fait, ça dépend énormément de ça, finalement, aussi, sur comment on vit notre cycle menstruel et comment on vit nos menstruations, mais ça dépend vraiment de comment se passent nos menstruations. Et il y a des femmes pour qui c'est pas un sujet et pour qui, en fait, elles ont aucune variation de performance. Il y a d'autres femmes pour qui c'est une réalité et pour qui la contraception est une solution, voire même une option plus qu'envisageable, au-delà du but contraceptif, mais aussi pour mieux vivre, en fait, cette période qui, pour le moment, n'est pas forcément... une manière qu'elles ont, où elles n'ont pas forcément les outils pour la gérer autrement. Donc, désolée, c'est des réponses à tiroir, mais c'est vrai que c'est tellement... Je suis obligée de mettre de la nuance parce que j'aime pas les discours qui sont un petit peu étiquetés pour les réseaux sociaux, où en fait, oui, des réels de 15 secondes, c'est plus vendeur, ça fait plus de likes, ça fait plus de vues, mais la réalité est tellement plus complexe. Et du coup... Là, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire avec certitude que les menstruations n'impactent pas. Il y a une méta-analyse qui a mis en évidence, effectivement, donc une méta-analyse dans nos articles scientifiques trop nuls à lire, là. C'est le plus haut niveau de preuve. J'abuse quand même. C'est notre plus haut niveau de preuve. Et en fait, c'est une compilation de plein d'études. Et on va essayer de regarder les tailles d'effet, entre guillemets, entre toutes les études qui ont été menées. On a une seule méta-analyse sur le cycle menstruel, et tout le monde la cite et la recite, McNulty, notre boss. Et en fait, elle mettait en évidence que la phase qui était le plus susceptible d'être impactée par la performance, c'est les menstruations. C'est juste un constat, on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que si on prend des femmes qui ont un cycle menstruel très douloureux, c'est sûrement à cause de ça, mais c'est pas comme ça que les études ont été menées. Donc en fait, on peut juste avoir le constat que, de manière probable, il est possible que c'est la phase où il y ait les moins bonnes performances. C'est tout ce qu'on peut en tirer, on sait pas pourquoi. Je pense que la manière dont les questionnaires sont faits aussi, c'est un petit peu critiquable. Parce que du coup, par exemple, là j'étais en intervention hier avec... Une conférence pour l'Ultra Trail, donc à La Réunion, parce que j'habite à La Réunion, effectivement, je ne l'ai pas dit non plus dans la présentation. On a une course qui est assez grande, ça s'appelle la Diagonale des Fous. Il faut traverser l'île du sud au nord. Donc ça prend un peu de temps. Généralement, entre plus d'une journée pour les meilleurs, plus de 2 jours pour ceux qui vont au bout, mais c'est quand même une course qui est assez conséquente. Quand vous le faites pendant vos menstruations, je mets quiconque au défi de répondre à un questionnaire en disant, est-ce que ça impacte ta performance? Ben juste la gestion de ce problème, oui, ça impacte la performance. C'est pas pour autant qu'il y a de la douleur, c'est pas pour autant qu'elle se sent pas forcément capable de le faire en termes d'effort pur, c'est juste que la gestion de ce problème est un problème. C'est-à-dire que là, j'ai refait un petit topo, elles étaient 30, j'aurais dit, bah, du coup, est-ce que dans les dernières courses que vous avez fait, qui avait ces règles, donc bon, on a un petit peu parlé de ça, et est-ce qu'il y avait quelque chose pour vous changer sur le parcours? Non. Et en fait, du coup, c'est problématique, c'est que du coup, t'as pas forcément de quoi nettoyer tes mains, donc t'as pas forcément de quoi changer ta protection de manière sûre. Donc en fait, tu réfléchis, et du coup, ben, ça peut faire des frottements. Si t'as des frottements au niveau de l'entrejambe, ben, en fait, ça impacte littéralement ta course quand tu cours pendant 180 km. Donc en fait, tout ça, à l'heure actuelle, la recherche n'arrive pas tellement à aller jusqu'à ce degré-là de compréhension, je pense, du vécu du cycle. Parce qu'il s'agit pas juste de pousser sur un isocinétique de toutes ses forces, parce que actuellement, les études ont plutôt montré qu'on pouvait performer quelles que soient les phases du cycle et que les performances, on va dire, isolées dans un laboratoire, elles ne variaient pas tellement, et y compris pendant cette phase. Mais si on prend un peu plus de recul et qu'on voit ce que ça implique sur une course de 180 km comme la Diagonale des Fous, ça a une réelle incidence, en fait. Donc voilà. Réponse courte. Première phase, les menstruations. Ça peut être une problématique de douleur, notamment l'endométriose. Ça peut être une problématique de flux, notamment les saignements menstruels abondants, et une problématique de gestion, quel que soit en fait son flux et les douleurs, en fonction de l'effort qu'il y a à fournir. Je ne sais pas si déjà vous voulez rebondir sur cette première phase.
Si, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose quand même à prendre en compte dont tu as parlé, c'est l'humeur.
Ouais.
Et tout l'aspect plutôt, bah, les hormones qui vont plutôt jouer sur le moral.
Tout à fait.
Ça, ça peut notamment jouer sur l'estime de soi, ou sur... de facteurs, la gestion des émotions. Et ça, en fait, dans le bien-être, mais aussi le sport et tout un tas d'aspects de sa vie, ça peut vraiment faire varier, en fait, les données. Et ça, c'est très peu quantifiable et étudié aussi.
Tout à fait.
Aussi, du coup, de là, dans le côté plutôt psycho, ça va très peu être pris en compte aussi, en fait, dans toutes les études, justement, par exemple, là, comme je dis, sur la gestion des émotions, le cycle menstruel, alors qu'en fait, ça joue...
Ça joue énormément, oui.
Femme, en tout cas.
Ouais, complètement, t'as complètement raison. Et en fait, là encore, c'est tellement variable d'une femme à l'autre, ça dépend d'un cycle à l'autre aussi, ça dépend du stress qu'il y a eu au cycle précédent. C'est-à-dire que le vécu des menstruations, par exemple, pour certaines, ce sera une célébration quand on est en aménorrhée et qu'on retrouve un cycle. Ben, en fait, on apprend à célébrer son retour de règles. Quand malheureusement, on veut faire un enfant, ben, en fait, avoir ses règles, c'est pas une bonne nouvelle. Donc en fait, il y a aussi cette composante émotionnelle hyper forte vis-à-vis de ce qu'on traverse au moment où on le traverse et au moment où nos menstruations arrivent. Donc ouais, c'est clair que tu peux te sentir plus ou moins capable de faire un effort. Et effectivement, alors là, c'est vraiment pas mon champ d'expertise, on va dire, que le qualitatif et l'aspect psychologique de tout ça. Mais c'est hyper intéressant et t'as complètement raison d'appuyer là-dessus.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Du coup, tu as parlé d'aménorrhée, donc l'absence de règles. Est-ce que tu considères pour des sportives que c'est quelque chose de normal ou au contraire que c'est plutôt un problème? Parce que moi, j'ai eu quand même des échos de médecins, par exemple, qui disaient bah, « Non, mais c'est normal, elle fait beaucoup de sport, voilà, elle n'a pas ses règles. » Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce discours-là?
Fais gaffe, parce que là, je pars sur 15 minutes sans m'arrêter, si tu veux, sur cette question.
sans parler du sport, l'aménorrhée en général, je pense que c'est quelque chose
très
peu connu. Enfin, voilà, selon toi, est-ce que c'est normal ou pas, mais...
Ouais. En fait, ça me fait mal au cœur, en fait, quand on a ce retour-là des femmes, parce que, du coup, on les a beaucoup en... Après beaucoup d'errances, quand Barbara, moi, on peut les consulter ou on peut essayer de voir avec elles qu'est-ce qui est en train de se passer. On les a généralement après quelques mois. En tout cas, ça ne s'installe pas du jour au lendemain. Donc, ça fait déjà quelques mois ou années que c'est en train d'être installé. Et les retours que certaines nous font, c'est qu'en fait, le médecin leur a dit « c'est pas grave si tu ne veux pas d'enfant ». Et en fait, c'est triste. Pour pas mal d'aspects, parce que tu te dis, bah, du coup, ça me réduit un petit peu à ma capacité à procréer, alors qu'en fait, les hormones, elles ont une influence sur tous les systèmes de mon corps, notamment ma santé osseuse, notamment la santé cardiaque, notamment l'humeur, tu disais. Et du coup, pour répondre à votre question, non, c'est absolument pas normal, parce que déjà, ça peut être une condition médicale qui est importante, qui est préoccupante. Ça peut être une cause au niveau du chef d'orchestre, donc au niveau du cerveau, qui peut être obstruée, donc par exemple, par quelque chose comme une tumeur. Ça peut être à cause d'une obstruction donc en bas, c'est-à-dire que le saignement, les hormones sont toujours présentes. Les saignements peuvent potentiellement être toujours présents, mais par exemple, il y a quelque chose en bas qui obstrue, comme un fibron, donc qui serait aussi potentiellement une tumeur au niveau de l'utérus. Donc en fait, déjà, c'est un diagnostic différentiel. Avant de dire c'est pas grave, déjà, il y a des diagnostics différentiels à faire, parce que pour certaines personnes, en fait, c'est grave. C'est une minorité, Dieu merci. Mais pour certaines personnes, malheureusement, ben, y a autre chose dessous. Et ça, déjà, c'est juste important de le rechercher. Et en disant ça, je dis pas que les médecins font mal leur travail. On peut encore et encore revenir au début de cet épisode. En fac de médecine, en fait, on nous en prend pas. Pour avoir parlé encore avec certains internes, c'est pas un sujet qui est abordé, les spécificités de la femme. C'est à part, et quand on s'oriente en gynécologie, ben, on a déjà une pratique qui est très orientée, mais qui du coup n'est pas celle d'un médecin traitant. Donc une sportive qui va consulter son médecin traitant ou un médecin du sport par rapport à ça, bah, elle n'aura peut-être pas les meilleures réponses, parce que pour le moment, au sein de la maquette pédagogique des médecins, c'est pas encore un sujet qui est abordé. Et j'espère qu'avec tout ce qu'on fait en termes de diffusion, je parle effectivement de femmes et sport, mais il y a plein d'autres personnes qui œuvrent pour la santé des femmes en ce moment. Je pense qu'on va commencer de se faire entendre, et qu'il y a des médecins qui vont aussi prendre ce sujet à bras le corps pour aller peut-être enseigner au sein des instituts de médecine, des facs de médecine, pour vraiment mettre ce sujet-là. Et du coup, en fait, dans les diagnostics différentiels, donc je vous ai parlé de choses graves, et on va dire, quand on a écarté toutes les choses graves, le diagnostic qui est posé, c'est celui généralement d'une aménorrhée fonctionnelle hypothalamique. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, vous l'avez dit tous les deux, ça peut arriver chez des sportives, mais pas que. Ça arrive notamment aussi lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, tels que l'anorexie, ou en tout cas des troubles restrictifs de l'alimentation. Et bien, malheureusement, le fait de ne pas avoir assez d'apport alimentaire a un impact réel sur notre corps. Et du coup, ben, c'est la malnutrition en général. Hein. Quelqu'un qui n'a pas accès à de la nourriture autre part dans le monde, il est dans la même situation. Et bien, en fait, notre corps peut passer en mode un petit peu économie d'énergie, et va commencer à se dire, ok, ben là, va falloir que j'adapte un petit peu les fonctions de mon corps pour que je continue de fonctionner et que potentiellement je puisse encore aller chercher de la nourriture. Et du coup, effectivement, cet état-là s'appelle l'aménorrhée. Ça peut arriver notamment chez les jeunes adolescentes, une aménorrhée primaire, on appelle ça, quand on n'a pas nos règles après nos 15 ans. Généralement, il y a un comité, le Collège américain de gynécologie et d'obstétrique conseille d'aller chercher la cause. Et pour eux, en fait, le signe menstruel est un signe de bonne santé. Et effectivement, ne pas avoir ses règles après 15 ans, il faut essayer de comprendre pourquoi. Parce que du coup, les hormones sont censées être là, sont censées nous aider à acquérir notre capital osseux. Ça s'acquiert majoritairement pendant l'adolescence, entre nos 12 et nos 18 ans. Et en fait, si on bénéficie pas de l'influence hormonale, on peut avoir un impact sur notre squelette pour le restant de notre vie. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas tellement d'accord du coup avec les médecins qui disent que c'est pas grave. En fait, oui, c'est clair, c'est peut-être pas un risque vital, et encore, je pense qu'à long terme, c'est vraiment pas un état de bonne santé pour quelqu'un. Mais très clairement, c'est une préoccupation d'ordre majeur quand on soigne une femme, que de poser la question de comment ça va votre cycle menstruel. Et du coup, dans le cas d'une aménorrhée primaire, ça peut être par exemple une sportive de haut niveau qui s'entraîne énormément, qui fait un sport généralement qui a plutôt à visée esthétique et qui du coup potentiellement voudrait correspondre à des standards de minceur et qui du coup peut potentiellement ne pas soit volontairement manger suffisamment, soit parce qu'elle ne sait pas qu'il faut manger beaucoup quand on fait du sport et qui peut se trouver dans cette situation. Et après, ben, chez des femmes, il y a d'autres profils. Quand on est en aménorrhée secondaire, c'est qu'on a déjà eu des cycles menstruels et qu'ils se sont stoppés. Et du coup, ben, généralement, c'est quand on n'a plus de règles depuis plus de... Oh, je ne vais pas dire les chiffres parce que je ne les ai plus en tête aujourd'hui. L'absence de cycle menstruel depuis plus de 9 mois, généralement, c'est caractérisé comme une aménorrhée secondaire. Et effectivement, ben, c'est un peu comme si votre corps il avait priorisé différentes choses. Ça arrive dans des sports qui sont très énergivores, au sens calorimétrique du terme, de la grande distance, donc de la nage haute grande distance, du triathlon longue distance, de la course en montagne, de l'ultra-trail longue distance, et avec aussi ben, ce côté rapport poids-puissance qui est un petit peu valorisé, où en fait ben, ça nous arrange bien aussi de potentiellement perdre les 4-5 kilos qu'on aimerait perdre pour être, ouvrez les guillemets, affûté. Et le truc, c'est que ça, à long terme, ben, malheureusement, ça a des conséquences, donc, notamment sur la santé osseuse, comme je vous disais, sur la santé cardiovasculaire, sur le mental, etc. Et tout ça, maintenant, a un nom. Dans les années 92, ça avait été catégorisé sous le nom de la triade de la femme athlète, et qui a connu une révision sémantique, du coup, en 2007, où on s'est dit que, oula, c'est plus complexe. C'est pas juste de l'anorexie, c'est pas juste des fractures de fatigue et c'est pas juste de l'aménorrhée. En fait, tout bouge. C'est-à-dire qu'on peut avoir des troubles du cycle, on peut être anorexique comme on peut ne pas l'être et on peut avoir des fractures de fatigue comme on peut ne pas en avoir. Donc en fait, tout transite un petit peu entre tous les états, mais le mismatch entre les besoins du corps en énergie et ce qu'on lui apporte, et dans les besoins en énergie, ça dépend de ce qu'on fait de notre vie. Quand on dort, là, je suis en train de vous parler, je vais avoir des besoins plus conséquents que si j'étais en train de dormir. Donc, en fait, ça dépend de notre vie courante aussi. Et tout le monde ne sait pas forcément qu'il faut vraiment apporter nutritivement des choses pour soutenir nos activités de tous les jours. Et donc, on a plus de perspectives. Donc, la triade a pris un petit peu en trois dimensions. Et cette triade s'en sert maintenant dans un syndrome qui s'appelle le syndrome de déficience énergétique relative dans le sport. Désolée, encore une phrase à rallonge. Son petit nom, c'est le REDS, comme rouge en anglais. D'ailleurs, il ne faut plus dire REDS, il faut dire REDS, tout attaché. Et en fait, comme un carton rouge ou feu rouge. Mais l'idée, c'est effectivement que le corps se met un petit peu à l'arrêt et qu'effectivement, il commence à prioriser d'autres fonctions du corps que celle de la reproduction, que celle qui est visible, mais pas seulement. Et en fait, ça a des conséquences un petit peu néfastes, à la fois sur la performance sportive, mais surtout sur la santé. Et l'idée, c'est de ne pas laisser ces états-là s'installer et de pouvoir assez vite aider les femmes à s'en sortir. Donc non, l'aménorrhée n'est pas normale. Si vous n'avez plus vos règles, il faut essayer d'en parler à quelqu'un qui vous écoutera. Si cette personne vous dit que c'est pas grave, eh bien, je suis désolée, mais il faudra changer d'interlocuteur, essayer de trouver un interlocuteur qui vous aidera à faire le nécessaire. Pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation, parce que c'est important. J'ai parlé de grossesse juste avant, il y a des aménorrhées qui sont aussi causées à cause d'une grossesse. Donc il faut essayer de trouver la cause de l'aménorrhée avant toute chose, et avant de sauter sur des conclusions hâtives, entre guillemets.
Ok, et du coup tu as parlé du REDS, du coup. Et est-ce que, parce que du coup dans la triade, effectivement, il y a l'aménorrhée, donc qui est une partie visible de l'iceberg, comme tu dis, et qui peut être un petit peu un signal d'alerte en fait, chez les femmes pour aller consulter. Et du coup, chez les hommes sportifs, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte, enfin, est-ce qu'on peut parler d'un REDS ou est-ce qu'on parle de malnutrition, enfin, comment eux, ils peuvent en fait avoir l'alerte rouge pour aller consulter?
Et ben, en fait, tu vois, au même moment où la triade de la femme athlète est née, Anthony Hackney, qui est un des chercheurs qui a fait énormément sur l'hypogonadisme, donc c'est justement la diminution des hormones sexuelles chez les hommes notamment, lui il a beaucoup milité pour que la triade de l'homme athlète soit créée aussi, parce qu'en fait ils se sont dit, bah, pourquoi les hommes ça fonctionnerait pas pareil? La différence, c'est que comme ils ont des options un peu moins cool que la grossesse, d'accord, qu'on se le dise, eux ils ont pas la chance d'avoir un cycle menstruel qui leur permet d'avoir des variations d'humeur qui nous permettent d'être des super Beyoncé en phase folliculaire. Bah, les hommes du coup ils n'ont pas ces options-là, donc effectivement, ils peuvent tolérer un peu plus de privation de nourriture, aussi peut-être parce que c'était eux qui devaient aller nous chercher la nourriture à l'époque, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils tolèrent mieux le déficit énergétique, mais qu'ils y sont sensibles aussi et qu'ils peuvent se trouver dans cette situation. Et du coup, effectivement, des triades, on est passé au REDS, parce que le REDS est mixte. Et c'est vraiment, les auteurs insistent là-dessus. Et d'ailleurs, pour une fois, il n'y a que 20% des papiers qui incluent des hommes. C'est le seul endroit de la recherche actuelle où le gender gap est inversé. Il y a le périnée aussi, on n'en parle pas assez du périnée masculin, mais en dehors des considérations post-cancer, les hommes aussi ont un périnée et les hommes aussi peuvent avoir des troubles au niveau de la fonction périnéale. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, chez les hommes, comment on va voir la partie visible de l'iceberg ? Eh bien, ça va être au niveau de la libido. Donc, chez les femmes aussi, elle est largement impactée. Mais au niveau aussi de la fréquence des érections matinales. Chez les hommes, le fait d'avoir moins d'érections matinales, c'est un signe qui pourrait alerter sur effectivement la présence d'un trouble au niveau des hormones sexuelles et potentiellement d'un REDS associé à d'autres facteurs comme par exemple une irritabilité qui est beaucoup plus décrite chez les hommes, une humeur maussade. Enfin, de tous les retours que j'ai eus au niveau des hommes qui étaient concernés par ce syndrome, c'est surtout l'humeur qui alerte en tout cas l'entourage. Je vais prendre une phrase de coach Seb de la clinique du coureur que je salue si un jour il tombe sur ce podcast, c'est « quand tous les autres autour de toi sont des cons, c'est que c'est toi le con ». Et c'était un des signes un petit peu du surentraînement, entre guillemets. Et en fait, chez les hommes, ça a été très souvent diagnostiqué et annoncé comme surentraînement. Mais il faut savoir que maintenant, le diagnostic différentiel du surentraînement et du REDS, bah, il est plus si clair parce que le surentraînement ne prenait pas en compte l'apport alimentaire. Et on pense potentiellement qu'on parle de la même chose, finalement, en termes d'efforts. Donc chez les hommes, l'humeur va être un gros signe, l'absence de libido et la diminution des fréquences d'érection matinale et la qualité potentiellement. Alors je vous mets au défi en termes de vérifier ça, on va dire, à titre clinique, c'est quand même un petit peu compliqué. Toujours est-il que poser la question des fois à des personnes qui sont un petit peu en errance thérapeutique, qui guérissent pas forcément de leurs blessures, qui sont un peu en... Vous savez, un peu, enfin, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas d'avoir des tendinites par-ci, par-là, je fais que tomber malade, je suis un peu en contre-perf, etc. Mine de rien, le voir sous cet aspect-là, dire sinon, juste, désolé, j'ai une question un peu tabou, mais ça va comment au niveau des érections matinales? Vous en avez toujours un peu, la libido, comment ça se passe? Vous avez encore deux noms là-dessus, dire bon, on va aller faire une prise de sang, on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, ouais, effectivement, très bonne question, les hommes, ils sont aussi sensibles. Et du coup, c'est pour ça que le REDS ne s'appelle plus la triade de la femme athlète et que la triade de l'homme athlète, c'était encore trop à connotation femme, que du coup, le REDS met un peu tout le monde d'accord. Et effectivement, c'est mixte.
Ok, et j'ai une autre question pour faire suite à tout ce que tu as dit depuis le début du podcast. Elle est peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'en clinique, du coup, en tant que kiné, tu prends en charge, excuse-moi, de la même manière, les hommes et les femmes, où il y a des choses qui changent, des facteurs qui diffèrent
Bah, du coup, je pose... Et je pose quand même des questions différentes, je l'admets. C'est vrai que ça m'arrive rarement aux hommes de leur demander s'ils ont leur cycle menstruel. C'est assez rare, donc direct, c'est une des différences principales. Je dirais que connaissant tout ça maintenant, effectivement, ma prise en charge a un petit peu varié. Mais disons que je fais plus attention à d'autres facteurs de risque quand j'ai une femme en face de moi par rapport à un homme. Parce que du coup, j'ai un spectre aussi et j'ai une expertise actuellement qui fait que j'ai un adressage de patients qui est quand même vraiment différent de mon début de pratique clinique. Mais effectivement, avoir des connaissances sur le périnée, bah, je vais poser d'autres questions quand il y a des problèmes de lombalgie. Je vais essayer d'aller creuser du côté de la fonction périnéale, de la fonction au niveau vésical aussi. Quand il y a une femme qui fait de l'ultra-trail, bah, je vais essayer d'être un peu plus vigilante en me disant, bon, est-ce que j'ai des red flags? Ok, non, le cycle menstruel est régulier. Bon, je lui dis toujours que si jamais ça évolue, ce serait bien qu'elle fasse attention, etc., etc. Le fait d'avoir une poitrine aussi. En fait, bah, mine de rien, la taille de la poitrine diffère d'une femme à l'autre. Mais sur la cinématique de course, ça a une influence réelle sur la qualité du support mammaire, en fait. Et pour autant, nous, on prend des fois les brassières qui sont jolies. Voilà. Parce qu'elles sont belles, mais on n'est pas forcément courant que genre c'est bien d'avoir des fois plus de support pour éviter qu'au niveau de la cinématique, votre sens de gravité subisse un petit peu un rebond au-dessus du nombril de manière conséquente. Parce que du coup, bah, sur les fascias, qui sont des tissus pas forcément extensibles, bah, le manque de soutien au niveau de mammaire peut avoir un impact sur effectivement toute cette structure-là au niveau thoracique, au niveau cervical, etc. Donc quelqu'un, moi, qui consulte pour des douleurs cervicales et qui a un tatouage de sa brassière, vous savez, quand elles enlèvent un petit peu, qu'elles s'allongent sur la table et qu'en fait, pendant le 30 minutes de séance, la marque de la brassière ne s'est pas enlevée, il est possible que les trapèzes ne soient pas spécialement contents d'être comprimés toute la journée, quoi. Donc en fait, voilà, c'est ces particularités-là qui ne sont pas forcément enseignées mais qui pour moi sont hyper importantes à comprendre et à conseiller, parce que des fois on sera peut-être une des premières personnes à mettre le doigt là-dessus et dire bah, quand même vous avez extrêmement mal au dos, mais vous portez un soutien-gorge qui clairement la marque ne s'est toujours pas effacée de la demi-heure dont on vient parler, et vous pouvez voir les baleines vraiment sur le côté. Donc voilà, je pense que sur les douleurs musculo-squelettiques, c'est hyper important de penser à tout ça quand on a une femme en consultation, effectivement.
Et du coup, est-ce que très concrètement, tu as des recommandations pour tes patientes, mais pour les femmes en général, qui en fait aimeraient mieux vivre leur cycle menstruel ? Est-ce que, justement, c'est un peu paradoxal, parce que en tant que femme, et je le sais bien, hein, on a un peu envie de rester chez soi, sous la couette, ou est-ce qu'en fait, au final, ce serait pas mieux d'aller faire de l'activité physique, ou... Enfin, voilà, est-ce que tu as des petits conseils
Je vais essayer de boucler la boucle sur les différentes phases et comment on les vivait, du coup. Mais déjà, se traquer, connaître ces phases et essayer de les repérer dans le temps. En fait, ce qui va être hyper aidant, je pense, c'est de se connaître. Et de savoir un petit peu, est-ce qu'il y a un pattern qui se répète ? L'ampleur des montagnes russes émotionnelles, l'ampleur des montagnes russes, on va dire, en termes de symptômes, ça peut déjà indiquer qu'au niveau des apports alimentaires, au niveau de la vie de tous les jours, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Les gens dorment pas très bien en général, l'utilisation des écrans, enfin bon, il y a plus d'un million de raisons pour lesquelles on a la lombalgie chronique non spécifique. C'est réellement quelque chose sur lequel on a énormément d'hypothèses et qu'en fait des fois on arrive à avoir énormément d'effets en adressant des facteurs de vie tels que l'activité physique, tels que le sommeil, tels que la nutrition. Bah pour moi, l'ampleur et le roller coaster émotionnel et des symptômes physiques du cycle menstruel, il faut le voir un petit peu sous le même spectre. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de ton cycle menstruel ? Est-ce que ta phase folliculaire, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu l'as repéré ? Comment tu te sens ? Est-ce que tu es en mode Beyoncé ? Est-ce que tout va bien ? Ou plutôt, c'est assez neutre, ok, bon, bah, passons à l'ovulation. Est-ce que tu as remarqué ? Est-ce que tu sais comment tu peux remarquer une ovulation ? Parce que ça peut être un moyen, quand on cherche à procréer, ça peut être un moyen de le repérer et de savoir quand on est fertile. Quand on ne veut pas procréer, ça peut être un moyen aussi de savoir qu'on doit se protéger. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu as remarqué que tu avais des symptômes ? Il y a certaines femmes qui décrivent justement un gonflement de poitrine. On va y revenir un petit peu juste avant. Du coup, est-ce que tu sais ? Est-ce que c'est peut-être le moment de desserrer un cran sur ton soutien-gorge ? Surtout si tu vois que tes syndromes cervicaux, tes symptômes au niveau des cervicales pendant cette période, ils augmentent. Si tu prends une demi-taille de bonnet, déjà, est-ce qu'on peut juste essayer de voir si c'est pas ça, finalement, qui peut te causer plus de problématiques ? Là, c'est des hypothèses, hein, mais voilà, ça peut être une manière de voir les choses. Et ensuite, la phase lutéale, qu'est-ce que tu as comme symptômes ? Il faut savoir qu'en fin de phase lutéale, il y a une période qui est décrite comme le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est 150 symptômes différents. Ils ont fait un panel, il y a certains auteurs qui ont essayé de voir qu'est-ce que c'était concrètement. Et en fait, ils ont réussi à référencer 150 symptômes différents. Donc déjà, c'est très individuel. Ça varie énormément d'une femme à l'autre. Ça peut varier d'un cycle à l'autre. Et ce qui s'est passé, en fait, tout au long de votre cycle, des menstruations jusqu'au SPM, ça va influencer, en fait, l'ampleur de cette montagne russe émotionnelle. Et en fait, quand tu sais ça, tu peux clairement adapter tes comportements. Tu peux clairement adapter ton temps de sommeil, essayer de se dire, là, je sais que je suis un peu plus irritable émotionnellement. Pendant le SPM, notamment, c'est une phase qui est décrite, moi, je l'appelle la période Britney Jones, un peu en mode pilou-pilou, prendre un gros pot de Ben & Jerry's et pleurer souvent et être extrêmement contrarié et irritable. Est-ce que c'est le moment d'avoir des discussions importantes ? Est-ce que c'est le moment... moi, par exemple, j'ai tendance à être un petit peu plus susceptible, ce genre de choses. Je sais qu'en fait... j'ai mon petit calendrier, je sais où j'en suis, je me dis on souffle un coup, on va l'écrire dans un carnet, on n'est pas obligé de déclencher une troisième guerre mondiale sur un truc qui n'a pas lieu d'être. Et deux jours après, c'est passé. Et il y a plein d'hommes qui sont venus me revoir après des conférences en me disant, tu sais que ça a sauvé mon couple, ta conférence, tu as comment ça ? Ma nana, elle a mis une espèce de roue du cycle menstruel et en fait, du coup, on voit ensemble où elle en est. Et en fait, des fois, je vois que elle est dans une période où émotionnellement, c'est plus compliqué. Donc en fait, moi, ça m'aide à être plus empathique avec elle. Des fois, elle se rend même pas compte qu'elle est en phase lutéale, parce que c'est un truc fou, ça nous arrive tous les mois, mais en fait, on est surprise qu'on est en SPM. Normalement, on le découvre quand nos règles débarquent. On dit, c'était ça alors, l'humeur pourrie qu'on avait il y a une semaine. Oui, c'était ton SPM. Et du coup, ça peut nous aider à nous rendre plus indulgentes envers nous-mêmes, à nous rendre un peu plus à l'écoute. Donc, par exemple, je sais pas, Johan, si les patients ont déjà fait ce retour d'expérience, mais tu sais, parfois, ils se blessent, ils ont une entorse, puis ils disent, en plus, je le sentais que j'aurais pas dû aller courir. J'aurais pas dû faire cette séance. C'est un peu la séance de trop. Et je trouve que du coup, si tu connais un petit peu ton cycle, que tu connais ton pattern, que tu sais un petit peu, tu vois que ça a été une journée extrêmement compliquée, que t'es pas bien émotionnellement, bah peut-être que du coup, c'est... est-ce que ce sera un vrai bénéfice ? Est-ce que du coup, tu vas faire ta séance, en... imaginons en course à pied, à l'allure à laquelle t'étais censé faire ? Mais si tu sais que t'es en SPM et que t'as tendance à avoir une période en phase lutéale où c'est plus compliqué, bah, est-ce qu'on peut pas essayer d'être plus soft sur l'allure ? Je prends l'exemple du CrossFit, vous pouvez tout est adaptable à l'infini. Bah peut-être qu'en phase lutéale, est-ce que c'est potentiellement possible de se dire, ok, bah là on va pas sur les charges de RX, quoi, on reste sur des charges en terre parce que je suis lessivée de ma journée, j'ai de la rétention d'eau, je suis pas bien. Voilà, ça fait partie des symptômes qui peuvent être décrits dans cette phase. Bah, est-ce que le bénéfice, c'est pas justement de se dire, je me pousse pas, parce qu'en ce moment je sens que c'est moins ok, quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment un outil. Connais-toi toi-même. C'est une maxime qui est hyper puissante et ça vaut pour énormément de choses, mais déjà essayer de repérer s'il y a des patterns qui se répètent pour nous, ce qu'on appelle traquer son cycle. Est-ce que, clairement, ça a un impact sur mon humeur ? Est-ce que ça a un impact sur mes performances ? Il y a des femmes pour qui, réellement, ça a un impact sur les performances. Je parlais du périnée, il y a des femmes qui ont plus de fuites urinaires à certaines périodes. Bah en fait, c'est comme, enfin, les études sont un petit peu peinées hein, pour le moment d'essayer de comprendre, de mettre ça en évidence de manière systématique, mais c'est décrit par certaines femmes, donc bah, si c'est le cas, ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que c'est systématique ? Bah, est-ce que tu peux réduire l'allure ? Est-ce qu'on peut, admettons, c'est au crossfit, c'est les double under, bah, ok, là du coup, il y a peut-être moyen qu'on repasse sur des single under, donc soit la corde d'un seul tour plutôt que deux, parce que du coup, il y aura moins d'impact, enfin voilà, vous voyez, c'est... je pense que ça permet d'être un peu plus indulgent envers soi-même et d'avoir un peu plus de bienveillance envers nos hormones aussi, parce que j'aime pas non plus que les gens me disent « Ouais, mais du coup, c'est nul, on a plein de trucs négatifs. » Bah ouais, mais on a aussi une super période qui est la période Beyoncé, et en fait, ça nous permet d'être extrêmement aussi ouverte au monde, à l'écoute de notre corps, c'est une chance aussi. Donc se donner la chance de se connaître et d'avoir l'opportunité d'adapter notre activité, c'est hyper important. Et effectivement, quand on a des douleurs de règles, par exemple, donc les dysménorrhées, l'activité physique a été marquée comme quelque chose qui pouvait aider. Donc des mouvements, le fait de pratiquer quelque chose d'intensité modérée, alors les études sont encore pas trop claires sur qu'est-ce qui fait du bien, le fait de bouger va permettre de sécréter des hormones, potentiellement les endorphines, qui vont potentiellement avoir un rétrocontrôle négatif sur bah, ce qui produit de la douleur. Donc en fait, ça permet d'avoir de la modulation de symptômes. Plutôt que mettre tout le monde sous pilule parce qu'elles ont mal au ventre, bah, est-ce que tu sais qu'un TENS qui peut être remboursé par la sécurité sociale lorsqu'il est prescrit dans le cadre d'une endométriose par exemple, et bah, ça peut aider en fait, et tu peux le mettre au lieu de te blinder de médicaments par exemple. Donc en fait il faut libérer déjà le sujet, bah, comme vous êtes en train de faire en me proposant d'en parler dans ce podcast, et ne pas hésiter à consulter des thérapeutes qui sont capables de vous apporter des alternatives par rapport au problème qui vous est propre. Et vraiment, c'est Il y a un cycle menstruel, c'est son propre cycle menstruel qui va varier vraiment tout au long de notre vie aussi. Plus on va se rapprocher de la périménopause, puis avoir d'autres symptômes. La périménopause, juste avant la ménopause, va y avoir des bouffées de chaleur, beaucoup d'irritabilité, etc. Il y a plein de femmes qui découvrent l'impact des hormones dans leur vie à ce moment-là. Et en fait, je pense que si tu arrives à comprendre tes hormones beaucoup plus tôt, bah, tu arrives peut-être plus à comprendre qu'est-ce qui te fait du bien quand tu es dans une période en crise, qu'est-ce qui aide justement à réguler tes symptômes et quel type de symptômes tu as, tout simplement, parce que 150 symptômes, vous vous doutez bien que sur ce podcast, je ne peux pas faire trop de généralité non plus. Mais que globalement, on peut dire que c'est une période plus stressante. Et pendant la ménopause, quand tout se dérègle, bah, c'est une période extrêmement stressante. Déjà, juste être au courant que ce sont nos hormones, ça peut être extrêmement déculpabilisant. Il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas. Ça met en péril des couples, des vies de famille. Bah, déjà de pouvoir informer en disant, tu sais, là je suis en train de vivre quelque chose qui n'est pas forcément évident, ça s'appelle la périménopause, bah, c'est en train d'impacter littéralement toute ma vie, je me sens pas bien, j'ai pris du poids, j'arrive pas à faire du sport, j'ai mal partout, j'ai perdu des muscles, voilà, bah, des fois ça peut être, ah ok, bah, j'avais pas remarqué, je savais pas que ça s'expliquait, je savais même pas que ça avait un nom. Et ça déjà c'est assez puissant en fait, de savoir ce que t'es en train de vivre et d'essayer de comprendre ce que tu vis. Et après, ben ouais, y a plein de choses à mettre en place, et les kinés, les professeurs d'activités adaptées, donc les APA, les profs APA peuvent être tout à fait aussi des personnes qui peuvent aider, surtout sur des personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie et qui voudraient s'y mettre potentiellement. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs qui peuvent aider. Mais il faut oser en parler, et si quelqu'un vous dit que ce n'est pas important et qu'il s'en fout, moi, je change de thérapeute. Voilà. Si c'est important pour vous, ça doit être l'important pour lui.
Ok, merci beaucoup Manon pour toutes ces réponses, c'est vraiment super pertinent et intéressant. Donc on arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu aurais des ressources qui, toi, t'ont aidé à être bien dans tes baskets? Ça peut être un film, ça peut être un livre, un podcast ou ce que tu veux.
Moi, il y a une phrase que je me répète beaucoup, c'est « crois en ce qui t'aide à dormir la nuit ». Je vous l'ai dit, je suis quelqu'un d'assez positif. Parfois, dans le monde dans lequel on vit, on peut très vite sombrer dans quelque chose de beaucoup plus anxiogène. Je pense à l'écologie, on peut s'inquiéter pour la planète, on peut s'inquiéter pour le futur. Moi, je choisis de me dire qu'on essaye de tous de faire de notre mieux. Et disons que, un peu un éloge de l'optimisme, mais vraiment d'essayer de travailler un petit peu le côté pensée négative et d'essayer de voir la vie toujours du bon côté, donc un peu finir Hakuna Matata. Mais vraiment de se dire... je choisis vraiment de croire que l'être humain, il n'y a pas de personnes méchantes, il y a surtout des personnes qui souffrent. Que dans le fond, même quand on a une mauvaise journée, c'est pas grave, là, demain sera meilleur. Donc sans que ce soit de la positivité toxique, parce que malheureusement, y a des fois, c'est juste vraiment la galère, il faut savoir accepter aussi. Je suis quelqu'un qui lit énormément et les livres ont toujours été, une capacité à comprendre le monde, à développer beaucoup plus d'empathie. Sur le sujet du cycle menstruel, je peux vous conseiller Gaëlle Baldassari, qui, moi, était une des premières portes. Donc son livre s'appelle « Kiffe ton cycle ». Et elle a écrit une version pour les enfants qui s'appelle « Kiffe tes règles », pour expliquer les règles, pour les premières règles pour les jeunes adolescentes. Je trouve ça génial. Moi, ça m'a permis d'arriver à mieux vulgariser aussi mon sujet. Ça m'a permis d'avoir des ressources et de pouvoir les conseiller quand les femmes, justement, n'arrivent pas à trouver des professionnels de santé qui veulent parler de ça avec elles. De pouvoir leur dire, tu sais, ce livre, il peut t'apprendre un petit peu plus à connaître ton corps. Donc, sur l'aspect cycle menstruel, je conseillerais ce bouquin. Et sinon, qu'est-ce que je peux te citer comme livre? Celui qui me vient en tête, c'est L'art de perdre d'Alice Zeniter, qui a absolument rien à voir avec tout ce que je viens de citer. C'est sur la guerre d'Algérie. Non, mais vraiment, ça n'a aucun rapport. Mais en fait, m'a permis de prendre énormément de recul sur moi, sur la relation aux autres, sur la complexité des relations humaines aussi. Et en fait, je pense que lire est une vraie porte de sortie pour beaucoup de choses, et pas forcément que des articles scientifiques un peu ennuyants. Je reparle de nos articles. Mais de s'ouvrir à la littérature, à l'imaginaire, ça fait beaucoup de bien et ça permet aussi de prendre du recul sur sa vie et de comprendre, expérimenter autre chose que... on n'expérimente pas dans sa vie. Donc moi, ça a toujours été quelque chose qui m'a entre guillemets sauvée. Donc L'art de perdre, ça a été un livre qui m'a bouleversée et que je conseille pas mal. Voilà.
Ok. Et du coup,
auto-promo, j'ai quand même parlé de notre podcast. à chaque fois, j'oublie, mais on est en pause en ce moment parce que du coup, la thèse, ça prend un petit peu de temps. Que Barbara aussi a quelques projets de son côté. Mais on a un podcast du coup de partage un petit peu de tous ces sujets qui s'appelle Femmes et Sport Podcast, où on interview des experts, aussi des témoignages de sportives, où on essaye un petit peu d'expliquer des fois quand on sait ce qui s'est passé ou qu'on peut apporter un éclairage différent sur l'expérience qu'a vécue la sportive. L'idée, c'est de mettre en avant un petit peu les sujets autour de la femme et du sport, donc c'est assez varié. On parle du cycle menstruel, on parle de la contraception, on parle de la grossesse, on parle des fois des remarques un petit peu de l'environnement, donc... voilà, il y a vraiment pas mal d'épisodes et je peux vous recommander, si le sujet vous plaît, de jeter une oreille. Vous devriez trouver aussi un peu votre bonheur là-dedans.
Et il y a des mois, on recommande aussi parce qu'on écoute.
Merci.
C'est très bien, très intéressant. Et du coup, pour finir, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens bien dans tes baskets?
Ouais, franchement, j'ai l'impression d'avoir touché du doigt un équilibre et je m'estime assez chanceuse de... J'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment. C'est aussi mon syndrome de l'imposteur qui me fait souvent dire ça, parce que j'ai l'impression que j'ai de la chance de pouvoir faire une thèse aujourd'hui, parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, que c'était vraiment le bon moment pour eux, qu'il y avait des possibilités de financement à ce moment-là. Mais je suis tellement enthousiasmée par ce sujet, j'ai l'impression que c'est pas juste un sujet de thèse, c'est que c'est l'occasion de parler de la santé des femmes. Et c'est pour ça que je dis oui aux autres podcasts aussi, que j'ai créé le co-créé le podcast avec Barbara. Et j'ai l'impression effectivement que j'ai trouvé quelque chose qui m'anime, qui me permet de me lever tous les jours en ayant envie de travailler, en ayant envie de répondre à mes questions. Et c'est une chance inouïe d'avoir réussi à trouver ça. Et je pense aussi qu'il faut pas hésiter à se débarrasser de je vous disais un peu ma définition de bien dans ses baskets, bah, faut pas hésiter à péter les cases, en fait. Je me voyais vraiment pas être kiné toute ma vie, sincèrement, et faire que kiné. Je crois qu'assez vite, à la sortie des études, je me suis dit, je ferais pas que kiné. Franchement, je vous l'ai dit, je voulais pas me définir que comme kiné. C'est un métier que je trouvais exceptionnellement bien, intéressant, chouette. Mais j'ai envie de créer, j'ai envie de parler, je crois que j'ai envie de me réinventer, et je pense que je me réinventerai encore, donc pétez vos cases. Essayez pas des fois de garder un peu le costume dans lequel vous pensez qu'il faut être pour je ne sais quelle raison, les envies de vos parents que vous supposez alors que ça se trouve ils s'en fichent, la vie des autres alors qu'en fait on s'en fiche, la société alors qu'en fait franchement on s'en fiche. Créez-vous la vie sur mesure, ne faites de mal à personne, essayez en tout cas. Mais si vos passe-temps c'est pas prendre des armes à feu et aller dans des écoles entre guillemets, bah, en fait faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui fait du bien aux autres. En ressources, je peux que vous conseiller The Good Life, qui est un livre incroyable sur l'étude d'Harvard qui a suivi 4 ou 5 générations pour savoir c'est quoi le bonheur. Ce bouquin, il est oufissime. Et passer du temps avec les gens qui vous sont proches, les réseaux sociaux, c'est bien. Ça me permet des connexions. Mais en fait, il n'y a rien qui remplace la vraie vie. Et en fait, essayer de vous connecter chaque jour avec quelqu'un, que ce soit par un sourire, que ce soit par une parole, ça c'est ce qui m'aide à être bien dans mes basques. C'est clairement... essayer à chaque fois, comme si c'était la première fois, une première rencontre, un premier bonjour. Hein. Qu'est-ce qui va faire que moi, je me couche en me disant « Putain, aujourd'hui, ma vie, elle était chouette. » Voilà un peu l'état d'esprit que j'essaie d'adopter. Et du coup, ça va mieux ces dernières années, disons, sur comment je me sens.
Merci beaucoup, Manon. On était vraiment trop contents de te recevoir. C'était trop cool. Et du coup, voilà, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Merci,
Manon. Merci. Merci à vous pour l'invitation et bonne continuation.